Bonjour Raphaël Delvolvé, bonne journée le grand face-à-face, c'est en direct et c'est parti. Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter, comme tous les samedis avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, retour avec eux sur les temps forts de la semaine. Ce sera le duel suivi du débat de ce samedi. La Russie face à l'Occident. C'est ce qui se jouerait dans cette guerre en Ukraine, à en croire le président russe Vladimir Poutine. On l'a entendu dire qu'il avait pour objectif de démilitariser, de dénazifier cette anti-Russie que serait l'Ukraine. Je mets des guillemets autour de tous ces mots qui participent de sa propagande. Il apparaît maintenant que l'entrée en guerre en Ukraine s'inscrit dans un vrai projet impérialiste et d'une confrontation plus générale, non seulement avec l'Europe, mais avec donc l'Occident. La ville d'Odessa, sur la mémoire, sur la mer Noire, s'attend à un assaut de l'armée russe. Vous l'entendiez dans le flash de Raphaël. Les réfugiés ukrainiens continuent d'arriver en Pologne. L'évacuation des habitants de la ville de Mariupol devait commencer ce matin, à les reporter. Les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, mais assistons-nous à un basculement de l'ordre mondial? Et surtout, quels enjeux culturels, quels enjeux religieux, quels enjeux identitaires derrière le bruit des armes? On va en parler avec l'un des grands spécialistes de la Russie et du monde orthodoxe, Jean-François Colosimo. Il est historien, théologien, auteur d'un livre de référence, L'Apocalypse russe, Dieu au pays de Dostoïevski. Jean-François Colosimo sera notre invité dans une vingtaine de minutes, mais d'abord le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour. Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Beaucoup de sujets à aborder au cours de l'émission, mais on va commencer donc avec l'un des événements cette semaine. Événement, vous me direz si le mot convient. Ce n'était en tout cas pas un scoop, la fin d'une longue attente.
Il faut que le candidat puisse présenter son projet au pays. Mais il faut aussi que le président continue à faire son travail. Et c'est vrai pour une journée comme aujourd'hui. Et donc j'ai dû ce matin parler au président Poutine longuement, puis au président Zelensky, essayer d'agir. Et dans le même temps, voilà, je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français.
Monsieur le Président, qu'on peut maintenant appeler Monsieur le Candidat, c'est lui-même qui nous en donne l'autorisation et qui le disait hier dans une vidéo postée sur les réseaux après sa lettre aux Français publiée cette semaine dans la PQR. On a donc pu voir le premier épisode d'une série de vidéos intitulée Le Candidat. Le candidat Emmanuel Macron, il y a les questions de forme, il y a les questions de fond, les questions politiques. Gilles, c'est étonnant que Emmanuel Macron doive insister sur cette dimension de candidat?
Ou non, parce que cette déclaration de candidature intervient dans un contexte très fort, celui que vous venez d'évoquer, la guerre qui occupe tout l'agenda, qui bouleverse toutes les priorités et qui modifie en profondeur les intentions de vote. Dans le sondage de notre panel électoral Fondation Jean Jaurès, Ipsos, Le Monde, Cevipof, qui a été publié aujourd'hui même, Emmanuel Macron fait un bond de 6 points, dépasse les 30%, fait plus de 2 fois plus que Marine Le Pen qui est en seconde position. Dans ce contexte-là, sa déclaration de candidature perd quand même un peu de son importance parce que il faut bien comprendre que normalement le président doit aller sur le terrain de la campagne en devenant candidat.
Oui.
Là, c'est la campagne qui vient sur le terrain du président en faisant de l'Ukraine le sujet central. Et donc dans ce contexte-là, il n'avait pas besoin d'en faire trop. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'en a pas fait beaucoup. Quand on lit la lettre qu'il a fait publier dans la presse régionale ces derniers jours, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a un slogan qui dessine un clivage avec une formule habilement trouvée, bâtir la France de nos enfants, pas ressasser la France de notre enfance. Donc on voit bien la France de Zemmour, la France de Macron. Pour le reste, pas grand chose sur les priorités. François Mitterrand, lorsqu'il s'était déclaré candidat pour sa réélection en 1988, avait lui aussi utilisé la presse régionale pour publier sa lettre aux Français.
il y avait malgré tout beaucoup plus de substance dans cette lettre-là. Et surtout, je termine par là, on n'en sait pas davantage sur le positionnement que va adopter Emmanuel Macron dans cette campagne. Il est en réalité pris dans un dilemme. Aujourd'hui, il a plutôt besoin de montrer une continuité parce que c'est ça qui rassure dans le contexte. Mais demain, pour gouverner, il aura besoin d'un mandat et donc il aura besoin d'insister davantage sur le changement. C'est cet équilibre entre la continuité et le changement qui est le défi de ces prochaines semaines pour lui.
Natacha.
Oui, ce qu'on remarque, c'est cette semaine, trois prises de parole différentes d'Emmanuel Macron. D'abord, une intervention télévisée sur l'Ukraine, uniquement sur l'Ukraine, position de président. D'ailleurs, intervention intéressante, sobre, précise, avec ces termes importants. Je suis là pour vous protéger. C'est sans doute le nouveau mantra, l'un des nouveaux mantras d'Emmanuel Macron. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, dans cette prise de parole comme dans les autres, il y a un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'incarnait l'Emmanuel Macron de 2017 et même ce qu'il a pu dessiner au début de son mandat. Deuxième prise de parole, donc sa lettre. Gilles disait il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même, aussi bien dans cette intervention télévisée que dans cette lettre, un élément qui, moi, me frappe, c'est le mot « souveraineté » répété à peu près toutes les deux lignes. Ce qui ne peut que me réjouir, mais là aussi, c'est assez intéressant. Deux éléments dans cette lettre, la souveraineté, la nécessité de garantir l'indépendance, parce que c'est cette indépendance qui va nous permettre de résister aux dangers. Celui qui a pu constituer une pandémie, celui que constitue la présence d'un acteur brutal, violent, impérialiste et agressif qui est Vladimir Poutine. Et puis, la notion d'identité, parce que Gilles soulignait la petite phrase sur la France de pour nos enfants plutôt que la France de notre enfance.
Oui.
En effet, il y a deux trois petites phrases comme ça contre le repli, la nostalgie. Bon, c'est la facilité, le minimum vital, je veux dire, pour dessiner les clivages, les oppositions idéologiques. Mais il y a surtout tout un passage qui là aussi est quand même assez extraordinaire quand on pense d'où vient idéologiquement Emmanuel Macron, c'est le passage sur l'art de vivre à la française, notre façon d'être au monde. C'est assez intéressant. Il parle même d'enracinement.
Qu'est-ce qui vous a surpris ?
L'homme qui nous parlait de la Startup Nation, du En Marche. C'est-à-dire qu'on était en marche, c'est le contraire de l'enracinement. Et là, tout à coup, on a quelqu'un qui vient nous expliquer, il faut être souverain, il faut s'enraciner, et c'est comme ça qu'on va se tourner vers les défis de l'avenir. C'est très intéressant comme bascule. Dernier point, il y a cette petite vidéo dont nous avons passé un extrait qui vient confirmer la mue en candidat. Petite vidéo qui montre un homme volontairement extrêmement préoccupé justement de cette double casquette de président et de candidat, qui montre qu'il va trouver un équilibre entre les deux. Le mot humilité intervient trois fois, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'en fait, il y a un point qui apparaît dans la lettre qui est la question que tous les Français ont en tête, est-ce qu'il y aura une campagne ? On sent bien qu'en fait, alors même que Emmanuel Macron nous explique qu'il y aura une campagne parce que c'est nécessaire, le danger est bien qu'il n'y en ait pas et tout est installé pour qu'il n'y en ait pas. Et Gilles avait raison, il y a des débats qui doivent être tranchés. S'ils ne le sont pas maintenant, ça peut être potentiellement dangereux pour celui qui sera élu ensuite.
Gilles ?
Oui, moi j'ai moins été frappé que Natacha par ce qu'elle appelle la bascule, parce que je trouve que aussi bien sur la question de la souveraineté, dès le discours de la Sorbonne, donc c'était maintenant il y a plus de 3 ans, et y compris sur les questions de l'identité, de l'art de vivre à la française, ce sont des choses que Emmanuel Macron répète maintenant depuis plusieurs années, sans doute très différentes de ce qu'était la campagne de 2017, mais rien de nouveau aujourd'hui sous le soleil. Deuxième point sur l'Ukraine, évidemment que l'intervention télévisée était plus importante pour les Français que la lettre dans la presse régionale.
Très largement suivie d'ailleurs à la télévision.
Très largement suivie. Vous avez aujourd'hui 90% des Français qui sont très inquiets de la situation en Ukraine, qui redoutent son extension, et même 3/4 d'entre eux qui craignent un conflit nucléaire. Donc l'inquiétude est à son comble. Le sujet, il est là, et c'est parce que le sujet est là que il y a cette progression d'Emmanuel Macron. Il y a à la fois un effet de légitimité, ce que les politologues appellent le rassemblement autour du drapeau. Mais il y a un autre élément, c'est que
Par rapport à ses adversaires, Emmanuel Macron a la force de la cohérence par rapport à au conflit en Russie, là où Jean-Luc Mélenchon était plus pro-russe, là où Éric Zemmour et Marine Le Pen étaient très poutiniens.
Oui.
Y a évidemment une difficulté pour eux qu'il n'y a pas pour lui, et tout cela explique la situation favorable dans laquelle se trouve Emmanuel Macron. Un dernier mot, humilité. C'est vrai que c'était frappant dans la petite vidéo de voir à quel point ce mot était répété. Parce que Emmanuel Macron sait qu'il ne faut jamais donner l'impression qu'une élection est jouée d'avance. D'ailleurs, rien n'est joué d'avance. On voit en 15 jours comment les choses ont évolué de manière considérable. Et une campagne, ça se mène et ça se gagne.
Et il reste un peu plus d'un mois maintenant. Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
J'ai vu de nombreux rapports scientifiques dans ma vie, mais aucun n'est comparable à celui-ci. Le mix énergétique actuel est cassé. L'adaptation sauve des vies. Tout retard signifie la mort. Les pays du G20 doivent montrer la voie où l'humanité en paiera un prix tragique. Chaque dixième de degré, chaque seconde compte.
Un silence que certains ont dit assourdissant. Le dernier rapport du GIEC était publié cette semaine. Il a suscité assez peu de réactions. Ses conclusions sont pourtant particulièrement alarmantes et vous l'entendiez justement dans la voix du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Chaque seconde compte. L'urgence climatique a des conséquences tragiques pour l'humanité. Près de la moitié des hommes et des femmes qui vivent sur la planète sont dans une zone de danger aujourd'hui. Et vous vouliez revenir sur ce cauchemar annoncé, donc peu commenté, mais que décrivent et que confirment les experts et les scientifiques du GIEC, Natacha Polony.
Oui, en effet, avec en tête un élément qui me semble assez fondamental, c'est que les questions énergétiques ont enfin ressurgi dans le débat public. Et la guerre en Ukraine, certes, a effacé totalement des médias ce rapport du GIEC, rapport fondamental puisque c'est le deuxième volet et qu'il traite de la façon dont nous allons pouvoir nous adapter. Mais il faut avoir en tête que cette guerre en Ukraine, elle est liée à la question majeure du gaz et du pétrole. C'est-à-dire justement ce dont nous devons nous départir pour préserver la planète. C'est-à-dire que préserver notre indépendance, c'est aussi préserver la planète. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Sur la question de l'adaptation. En effet, ça fait partie des sujets qu'il faudrait pouvoir trancher dans cette campagne électorale. Je pense à un élément, par exemple, sur la question majeure du logement, qui n'apparaît pas du tout et que les candidats laissent largement de côté, mais de fait, pour le coup, depuis quelque temps, certainement pas de leur faute, c'est-à-dire que ça a été effacé. L'adaptation, ça va être la manière aussi de penser notre façon d'habiter le territoire, notre façon de l'aménager, de l'organiser, quel type d'habitat nous voulons, sur quelles terres. Nous insistions la semaine dernière sur la question cruciale de la préservation des terres arables.
Oui.
C'est tout cela qui va nous permettre d'anticiper un réchauffement, un bouleversement climatique qui est aujourd'hui réel, c'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'abri d'avoir des étés avec de temps en temps des villes moyennes qui décident des restrictions d'eau dans la mesure où les épisodes de sécheresse vont se faire plus importants. L'été dernier, de ce point de vue-là, était une forme d'exception, hélas.
Et ce qui vaut en France est évidemment une réalité. Et je le rappelle que vivent entre un tiers et la moitié des hommes et des femmes qui sont sur la planète pour garantir l'approvisionnement en nourriture, en eau douce. Les conséquences sont incalculables et donc alarmantes, Gilles.
Oui, le problème c'est que depuis maintenant 15 ans, il y a toujours, et de manière légitime, une urgence qui est plus urgente que le climat. La crise financière en 2008, les attentats en 2015, la crise sanitaire en 2020, la guerre aujourd'hui. Le problème, et c'est ce que montre ce rapport du GIEC, avec ce constat qui est alarmiste et qui est même très alarmiste, c'est que l'objectif que le monde s'était collectivement fixé de limiter à 1,5 degré l'augmentation de la température, il est déjà presque atteint, puisque nous sommes à 1,1 ou 1,2 degré, et que si, c'est ce que dit le rapport du GIEC, si les engagements qu'ont pris les États étaient tenus,
Et il y a beaucoup de doutes sur la capacité des États à tenir ces engagements. Oui. S'ils étaient tenus, on serait pas loin des 3 degrés.
Des 3 degrés.
Vous avez dit, la moitié de l'humanité dans une situation, je cite le rapport du GIEC, hautement vulnérable. Il y a d'ores et déjà des impacts qui sont bien supérieurs à ce qui était prévu il y a 10 ans. Et demain, des dommages qui peuvent devenir, qui risquent de devenir irréversibles. Ce qui est intéressant, c'est que ce rapport alarmiste n'est pas fataliste. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le rapport du GIEC dit qu'il est possible de rester sous les 2 degrés, qu'il est possible encore d'accélérer l'adaptation au changement climatique, et que si on ne le fait pas, eh bien, l'adaptation sera beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus limitée et peut-être même impossible. Et ça, je crois que c'est un élément qui est important dans ce moment. Alors évidemment, la réception de ce rapport a été pour le moins pudique. Hein. On en a peu parlé, pas seulement parce que c'était la guerre, parce qu'on parle peu de ce sujet-là, y compris avant la guerre, alors même que c'est une des préoccupations majeures.
Mais on a pris le temps de parler, par exemple, d'un éventuel transfert de Léo Messi au Real Madrid. Donc on peut trouver le temps de parler de sujets autres que celui qui fait la une de l'actualité.
Voilà, le problème, et c'est là où ça fait le lien avec l'actualité, c'est que les événements, les crises que nous vivons, nous éloignent de la résolution et de la lutte contre le changement climatique. Le Covid a généré des montagnes de dettes qui font que les financements seront plus difficiles à trouver. Et la guerre, en posant la question de, on va y revenir, de l'importation du gaz et du pétrole russe, risque de faire que, au moins à court terme, eh bien, c'est davantage de charbon qui va être utilisé, notamment en Allemagne.
Et on parlera évidemment de l'apocalypse. Alors, il y a cet apocalypse climatique, il y a l'apocalypse nucléaire qui est également redoutée. On en parlera dans un instant avec notre invité Jean-François Colosimo.
Le grand face-à-face, le duel.
La guerre en Ukraine se poursuit donc avec des conséquences tragiques pour les populations sous le feu de l'armée russe. Conséquences humaines, situation humanitaire catastrophique et donc des enjeux dont nous parlerons largement dans un instant au cours du débat. Mais il y a d'autres conséquences de la guerre en Ukraine et celles-ci sont économiques. Elles concernent le pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat. Écoutez ce que disait le Premier ministre Jean Castex sur le plateau de TF1, c'était ce jeudi.
Il y a aussi des conséquences plus transversales sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, notamment sur le sujet de l'énergie, le pétrole, bien sûr, vous avez évoqué le prix à la pompe, mais il y a aussi le gaz. C'est quand même du gaz russe dont nous sommes, je parle de l'Europe, le plus dépendant, et l'électricité.
Jean Castex, donc, au Trésor de TF1, cette semaine sera la semaine où le prix des matières premières aura connu la plus forte progression hebdomadaire depuis le choc pétrolier des années 70, donc depuis 50 ans. Ça ne s'était pas produit depuis un demi-siècle, une envolée des prix qui concerne toutes les matières premières, celles dont parlait le Premier ministre à l'instant, celles de l'énergie, au blé, en passant par les métaux. Gilles et Natacha, vous vouliez vous arrêter sur cette question précise du pouvoir d'achat, justement. Gilles ?
Oui, on pense assez naturellement au choc pétrolier de 1973, à la fois avec des risques d'effet global sur la croissance. La Banque de France parle déjà d'une baisse de la croissance pour l'année de 0,7 points, des effets sectoriels, des effets très spécifique pour quelques entreprises, et puis les matières premières, l'alimentation avec notamment le blé, l'énergie, le pétrole, le gaz, et donc un risque où on a à la fois une inflation plus forte, une croissance plus faible, et un pouvoir d'achat qui est entamé. Il y a une question immédiate qui est celle de la réaction à cette situation. On entend le gouvernement, dans ce plan de résilience qu'il a pour l'instant simplement esquissé, vouloir aider les entreprises, mais ne pas aider les ménages, ou ne pas refaire exactement le même traitement que pour la crise Covid, s'appuyant en cela, là aussi, sur ce que disait la Banque de France cette semaine, c'est-à-dire qu'il y a 175 milliards supplémentaires d'épargne qui ont été emmagasinés par les Français, et que donc c'est peut-être le moyen aussi, le moment de les utiliser. Et ce dilemme, ça serait dépenser beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne se verrait pas, puisque ça serait simplement de limiter les effets de,
de l'inflation. Donc on voit ça, ce sont les enjeux de court terme et ils sont compliqués pour le gouvernement. Je crois que, je ne vais pas dire l'essentiel, mais ce à quoi nous devons vraiment réfléchir, ce sont les transformations de moyen terme que cette crise doit impliquer. Qu'est-ce que ça veut dire sur le commerce international? Est-ce que, je reprends ce qu'était le titre d'un livre de Samuel Pizard en 1970, Les armes de la paix, est-ce que le commerce est un moyen de garantir parce qu'il renforce les interdépendances, ou est-ce que à l'inverse, c'est un risque, une menace parce qu'il augmente les moyens de pression? Je crois que ce sont ces questions-là qu'il va falloir se poser maintenant.
Natacha?
Oui, mais dans le prolongement de ce que vient de dire Gilles et qui est tout à fait juste, cette question de l'interdépendance est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'on voit combien la Russie est un pays de matières premières. Et c'est bien là que cela va se jouer, la France ayant sur certains points, par exemple, une production de matières premières normalement agricoles fondamentales. Encore une fois, j'y reviens, on parlait la semaine dernière de la façon dont la France et l'Europe devaient garantir leur souveraineté alimentaire. C'était présent dans le discours d'Emmanuel Macron, et ça n'est pas un hasard. C'est-à-dire que nous allons voir là une augmentation du prix du blé, du prix du maïs, extrêmement forte. La France est évidemment productrice de blé et de maïs, mais nous en importons beaucoup, notamment pour la nourriture de notre bétail. Donc il va y avoir un problème en particulier pour les éleveurs. Donc on voit combien tout cela va devoir être pris en compte dans l'organisation même de notre consommation, dans la façon dont nous concevons nos modes de vie. Et c'est tout cela qui devrait être anticipé. J'y insiste, ça rejoint la question environnementale également. C'est pour ça qu'il ça ne doit pas être pensé l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. J'ajoute un dernier point.
D'un mot, Natacha.
Oui, Gilles disait tout à l'heure que Emmanuel Macron était dans une position plus simple que celle de Mélenchon ou Zemmour, étant donné leur poutinophilie. C'est tout à fait vrai, ils ont été hallucinamment poutinophiles dans la mesure où ce qu'ils aimaient, c'était l'autoritarisme et finalement peut-être l'absence d'intérêt pour la démocratie. En revanche, Emmanuel Macron a depuis le début de son mandat une position vis-à-vis de la Russie qui n'est pas du tout celle de ses prédécesseurs et qui n'est pas du tout atlantiste. Et c'est aussi très intéressant sur la question des matières premières. Oui. Pourquoi ? Parce que si on suit bien la position d'Emmanuel Macron sur le gazoduc Nord Stream 2, on comprend qu'il y avait là déjà une prise en compte de la nécessité pour l'Europe de ne pas dépendre du gaz américain plutôt que du gaz russe. Et à un moment donné, Emmanuel Macron a changé de position, s'est opposé à ce gazoduc pour une raison simple. C'était pas du tout pour rejoindre les États-Unis, c'était parce qu'il craignait que le fait que l'Allemagne devienne un hub de réception du gaz russe lui donne une position dominante en Europe. C'est pour ça qu'on voit bien que, en fait, ces questions-là vont devoir être pensées. La question de l'approvisionnement en matières premières, c'est une question de sécurité, c'est une question de pouvoir d'achat, c'est une question que nous devons penser collectivement.